auditeurs. Bonjour tout le monde, Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 8 février 2017. Mon Dieu, que de problèmes techniques pour commencer, mais ça va aller très bien pendant toute cette émission. Christophe Rollin au micro, émission numéro 122. Isa est là, c'est très sympa lui d'être venu parce que Gérald se fait porter pâle, l'infâme personnage. Non, c'est pas très grave. Gérald, nous te saluons, il était pris par ailleurs. Nous avons une invitée, Elisabeth Macoco, pour nous parler de la pièce Plus léger que l'air qui est donnée au Théâtre de la Croix-Rousse jusqu'au samedi 18 février, c'est-à-dire la semaine prochaine. C'est une pièce très intéressante tirée d'un roman de Federico Jeanmer, une pièce de 2008, une pièce argentine. Alors commençons avec un petit peu de musique de là-bas. Commençons avec Fuga y Misterioso, extrait d'un album de Astor Piazzolla. C'est plus précisément l'album Decalissimo, et vous allez voir, c'est très très bien, ça va nous porter dans cette ambiance. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h comme d'habitude, comme tous les mercredis. Et vous nous écoutez sur Radio Canu, c'est-à-dire le 102.9 de la bande FM à Lyon, ou bien radiocanu.org si c'est sur Internet. Ça commence tout d'abord avec de l'Argentine et ça continue avec une pièce de théâtre.
Veux-tu ça, Isa ? Ce petit document. Est-ce que je l'ai mis ?
Des vitamines ces jours-ci, donc ça va.
Où le retour studio?
Heureusement qu'il y a un retour de casque. Tu fais une réponse?
L'avez constaté, auditeur. En fait, Elisabeth, je suis désolé. C'est magnifique. Vous pourrez le réécouter. Un beau ratage technique à l'instant, nous étions à l'antenne. Nous voilà seulement pour les quelques secondes à l'instant. Voilà, Isa jongle avec son micro. C'est un bon mercredi 8 février qui commence. On a commencé un peu sur le chapeau de roue. Pourquoi est-ce que je dis, Elisabeth, que vous pourrez le réécouter? Parce que les émissions sont enregistrées. Et on ne peut pas nier ce qui se sera passé. Vous pourrez donc écouter qu'on a bavardé en début pour les émissions, la musique qui est programmée par Jean Lacornerie. Donc, reprenons les choses comme si de rien n'était. Bonjour, Elisabeth.
Bonjour.
Salut Isa.
Salut tout le monde.
Donc nous parlons de cette pièce. Auditeur, l'aurez-vous compris, je l'avais annoncé en tout début d'émission, à la prise d'antenne. Nous parlons de la pièce Plus léger que l'air. Je pourrais tenter de le faire en espagnol, puisque cette pièce, je l'ai dit tout à l'heure, est tirée d'un roman. C'est assez étrange, une question que nous pourrons certainement poser à Elisabeth Macoco. C'est tirée de la pièce Más liviano que el aire, donc de Federico Janmer. Je ne sais pas très bien comment non plus on prononce ce nom en argentin. Janmer, oui, mais très certainement Janmer. Et donc c'est un roman, mais... Théâtre de la Croix-Rousse, ils sont super forts tout de même. Jean Lacornerie, directeur de ce théâtre, avec Martine Silbert, fait une adaptation qui donne la pièce Plus léger que l'air sur une belle durée. Ça a commencé la semaine dernière, je crois que c'était le mercredi, le 1er février. C'est donné jusqu'au samedi 18. 15 représentations, il y a quand même relâche les lundis. Et les dimanches aussi, Elisabeth ?
Non, dimanche prochain, niveau.
Oh là là, c'est incroyable. Et donc, 15 représentations pour cette pièce que j'ai pu voir. C'est intéressant. Mais avant, Elisabeth, de parler de cette pièce plus précisément, dans une deuxième partie, commençons un petit peu par brosser le portrait de notre invité avec cette question très générale. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun élément. Je crois que c'était les questions de Philippe Vandel, je crois. J'entendais quelqu'un les critiquer en disant « Il paraît que vous êtes né à Marseille, c'est vrai ou pas ?» Ben oui ou non, enfin voilà, c'est des questions assez fermées. Moi, la question que je vous lance, c'est « Qui êtes-vous, Elisabeth ?» Et puis c'est tout. Non, plutôt, qu'est-ce qui vous a mené un peu au théâtre, certes, et puis mais peut-être plus précisément sur cette colline de la Croix-Rousse pour cette pièce ?
C'est quand même une vaste question.
Oui, bien entendu, on fait exprès, on fait exprès. Je dis « on », je pense à Gérald qui n'est pas là aujourd'hui.
Oui, j'imagine bien. Je dirais que j'ai toujours fait du théâtre. Voilà, j'ai eu de la chance, beaucoup de chance, parce que dès le début de ma vie, j'ai su que j'allais faire du théâtre. Et il se trouve que j'ai réussi à en faire. J'ai fait des études au conservatoire. Mes parents étaient évidemment pas très réjouis de me voir passer des heures à lire et à faire des grimaces devant la classe. Et puis finalement, au fil des rencontres, au fil des hasards, au fil du travail aussi, eh bien, j'ai commencé. Je suis parti. Je suis né à Marseille. J'en suis parti très tôt, dans les années, il y a quelques années. J'avais une vingtaine d'années à peu près, et j'ai rencontré des gens formidables qui s'appelaient l'Attroupement, qui est une espèce de troupe libertaire. Et nous avons parcouru la France. Et finalement, nous nous sommes posés à Lyon. Il y a là aussi un certain nombre d'années, dans un merveilleux théâtre à l'Eldorado, qui n'existe plus aujourd'hui, à l'invitation de Bruno Beuglin. Et nous avons fait un certain nombre de spectacles. Et puis, petit à petit, j'ai pris mon envol. Petit à petit, j'ai dirigé des théâtres, j'ai continué à jouer. Et aujourd'hui, je retrouve Jean Lacornerie pour la troisième fois pour ce spectacle solo. Voilà, des solos, j'en ai fait aussi quelques-uns dans ma vie passée, et j'en suis très heureuse. Donc focalisons-nous peut-être sur le présent plutôt que de parler d'un passé en fait que très peu de gens connaissent,
mais
en
tout cas
qui a été formateur pour moi, dans le sens où elle m'a donné elle m'a fait rencontrer des gens absolument formidables, elle m'a fait consacrer ma vie, non seulement au métier, si on peut dire, et c'est un métier, oui, d'actrice, mais aussi au fait de me consacrer au théâtre, puisque j'ai eu plusieurs manières de le faire. J'ai dirigé des théâtres, je me suis posé la question de quoi jouer, de pourquoi le jouer, de pour qui le jouer, de comment.
Que de questions, parce que moi j'aimerais bien des réponses à ces questions, mais si, peut-être une ultime, c'est comment ça a commencé au tout début. Comment est-ce que vous entrez dans le théâtre? Mais alors vraiment, je veux dire, petite fille, c'est quoi le truc, un spectacle que vous avez vu, ou bien une diffusion à la télévision?
À l'école, j'allais au spectacle, au théâtre du gymnase.
Ça c'est bien, ça c'est important.
Et ça c'est formidable, vraiment. Et là, j'ai vu des choses merveilleuses. Et puis, l'année de mes 15 ans, j'ai rencontré une jeune femme qui était au conservatoire de Marseille, et là elle m'a appris une nouvelle formidable, c'est qu'on pouvait prendre des cours au conservatoire de théâtre gratuitement. Et comme j'étais dans une famille aux revenus assez modestes, ça a été évidemment une porte incroyable. Donc à la rentrée suivante, au mois de septembre, j'ai pris tout mon courage à six mains. Je me suis présenté au conservatoire. On m'a dit, il faut apprendre une fable, et puis vous venez, il y a un concours, et voilà, peut-être vous viendrez prendre des cours. Et donc j'ai dit une fable, j'ai dit le lièvre et les grenouilles. Et on m'a dit, bah écoutez, il me paraît bien ce lièvre et ces grenouilles aussi, donc venez donc avec nous. Et tout a commencé comme ça, j'avais 16 ans.
Vous la rappelez-vous un petit peu, c'est cette fable, non ?
Un lièvre, son gîte, songeait. Car que faire en un gîte, à moins que l'on ne songe ?
C'est très bien. Non, mais La Fontaine, c'est effectivement toujours Maître Corbeau, certes. Mais bon, ça, c'est peut-être la plus aisée. Quoi qu'on ne sait jamais, c'est la deuxième fable de son recueil du premier livre. La toute première, la connaissez-vous ? La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue. C'est donc la toute première du premier livre. Non, mais il commence fort, hein, le Père La Fontaine, avec Bam Bam 1668. Là. Oui, hein, je crois Héloïse l'a dit par ailleurs, j'ai d'autres activités qui font que je suis parfois un peu au courant de la littérature française. Donc, je pense que vous avez tout dit. Et non, justement, ça c'est vous qui avez lancé ces questions. Pourquoi jouez-vous ? Que jouez-vous ? Qu'avez-vous envie de jouer ? Non, ça je l'ai rajouté, celle-ci. Vous l'avez dit. C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez peut-être comme ça, en
oui,
quelques mots, puisqu'il faut que nous parlions de cette pièce.
La question du théâtre, elle se pose de manière entière. Elle se pose pas seulement du simple point de vue, qui est un point de vue, ma foi, fort compliqué, de l'interprétariat, d'être interprète. La question de l'interprète, elle s'est posée à travers, je dirais, d'abord l'amour des textes, et puis le fait de découvrir d'autres mondes, d'autres vies, ce qui rejoint d'ailleurs un peu la thématique de Plus léger clair, de découvrir qu'on pouvait vivre différemment, qu'on n'était pas forcément enfermé dans une vie restreinte, qui est la vie du quotidien. Et ça, je l'ai trouvé dans la littérature, et petit à petit dans la littérature dramatique. Et dans ce qu'il y a de merveilleux au théâtre, c'est-à-dire, d'abord, le théâtre, c'est un... On va ouvrir la porte à... On va ouvrir la porte des choses souvent dites. C'est la merveille de travailler avec d'autres. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment d'être avec les autres, d'inventer avec les autres, de douter avec les autres, souvent. Et puis, c'est-à-dire, voilà, on est là, dans un endroit, avec d'autres gens, et on se pose la question de pourquoi, qui est en face de nous, avec qui on partage, avec qui on a envie de partager ce qui nous semble important de défendre. Donc c'est souvent évidemment des valeurs, des choses dans lesquelles on croit, grâce à des textes, grâce à la poésie, grâce à la beauté, à la force des mots et des propos. Et puis voilà, on est dans cette volonté de faire en sorte que le théâtre soit un art vraiment collectif, c'est-à-dire il est pour les autres, c'est l'assemblée théâtrale, c'est l'art le plus politique qui soit, je crois. C'est celui qui se fait devant les autres, pour les autres, et en partageant des interrogations, des questions, des doutes, des joies aussi. Des joies merveilleuses. Et voilà, c'est ce qui, je crois, a animé ma vie de théâtre et qui a été un bonheur.
Et est-ce que le fait de faire du théâtre, c'est aussi. Ça vous a permis de vaincre une certaine timidité ou pas du tout ?
Ah, une forme de thérapie, oui. Enfin, de manière générale, peut-être pas forcément la timidité, mais d'autres choses.
Le théâtre est une chose formidable pour ça, parce qu'il vous révèle. Non seulement à vous-même, mais il permet de vous échapper de vous-même. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encombré de vous. Ouais, je crois que des fois dans la vie, on est encombré de soi-même, on est encombré de sa timidité ou de ses complexes, ou comme tout le monde. Et grâce au théâtre, on oublie tout ça, on s'oublie. Et je crois que ça a été une des choses les plus importantes pour moi, oui. Non pas de vaincre ma timidité, mais d'aller ailleurs. C'est-à-dire, vous êtes ailleurs, vous n'êtes plus au service, vous ne vous arrêtez de vous intéresser à vous-même. Ce qui est quand même pas très intéressant. Avoir le nez replié sur son propre ego, qu'est-ce que je fais, est-ce que si, est-ce que ça, tout ça est très très ennuyeux. Donc quand vous rencontrez grâce au poète, enfin moi je suis évidemment une défenseuse des textes absolus, on révèle des choses qui sont mille fois plus importantes que soi. Voilà, et donc grâce à ça, effectivement, bon, la timidité ou la difficulté de vivre de, passe complètement à côté.
Ça vous a permis de vous laisser porter, enfin de vous laisser porter par votre créativité, peut-être.
Ça m'a permis d'essayer d'être à la hauteur de ce que je rencontrais. Et ça, c'est formidable parce que du coup, ça vous stimule, ça vous demande des choses. Et quand on vous demande des choses, vous n'avez qu'une envie, c'est d'essayer d'y répondre le mieux possible. Alors ça apprend aussi des choses importantes, ça apprend à travailler, parce que c'est pas il y a pas de dons comme ça qui tombe du ciel. On a plus ou moins de dispositions, et puis après on se rend compte que ce qui est formidable, c'est que plus on travaille et plus on découvre des choses de soi-même et des autres, que ce soit au niveau de votre instrument, parce que ça c'est aussi une chose formidable quand on est quand on fait du théâtre, c'est qu'on est son propre instrument, donc dans tous les sens du terme. C'est-à-dire il faut à la fois penser, travailler sa voix, comme un chanteur qui l'est aussi, bien sûr, comme un musicien qui a besoin de son instrument, mais votre instrument, c'est vous. Donc voilà, vous devez le préserver, vous devez l'entraîner surtout. Et vous découvrez des choses incroyables, incroyables de vous-même.
Et est-ce qu'il y a un certain esprit de compétitivité par rapport à vous, enfin par rapport aux autres comédiens ?
C'est le monde qui est compétitif, hein. C'est l'humain qui est compétitif. Alors à bon sens et à mauvais escient. C'est-à-dire la compétition quand il s'agit d'écraser les autres et d'avoir plus que les autres, c'est pas une chose vraiment dont on peut se vanter. Par contre, il y a une compétitivité, qui n'est pas une concurrence, qui est une émulation, qui elle est très positive. Oui, et ça existe dans les cours, dans les promotions, dans les équipes, dans les troupes de théâtre. C'est-à-dire, on voit quelqu'un faire quelque chose de bien, on a envie aussi de faire quelque chose de bien soi-même. Quand on est acteur, des fois, on se pique des jeux, par exemple. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, un tel fait quelque chose de soi, on dit, ah tiens, hop, je m'en empare. Et puis, la personne qui est en face dit, ah oui, tu as pris ça, mais tiens, tu vas voir. Ouais. Du coup, c'est une compétitivité extraordinaire. C'est une émulation, en fait. C'est une force de vie, une force qui vous fait avancer, qui ne fait pas justement dire, bon, ben, j'ai fait ça, maintenant je vais refaire ça bien tranquillement tous les jours, tous les soirs. Je ne vais surtout pas me décaler à droite ou à gauche, parce que je sais que c'est dangereux. Bon, il y a un certain danger qui est plutôt plaisant. Vous parliez tout à l'heure, je peux dire des choses qu'on disait hors...
Bien entendu, vous êtes tout à fait libre.
Hors antenne. On parlait tout à l'heure, pendant le spectacle, il y a des moments où le public, comme ça, est très... Et très présent, puisque c'est lui le partenaire, hein. C'est-à-dire qu'il est à la fois votre confident, il est à la fois votre adversaire, et donc on le sollicite. Il y a une marge comme ça quand on est dans ce type de texte qui est très en adresse au public, où vraiment on raconte une histoire aussi. Le public est votre partenaire, donc vous pouvez très bien vous permettre d'avoir une marge d'improvisation. Par exemple, je vais vous dire, tiens, vous avez un joli sweat violet, voilà, pendant le spectacle, si ça se trouve, je pourrais le dire. Mais il faut faire attention, c'est-à-dire que je ne peux pas en plus vous dire qu'il y a des inscriptions dorées, ouais, qui sont très jolies aussi, mais qui n'auraient peut-être pas, grand sens. Donc, voilà, il y a cette liberté aussi qui est formidable dans ce type de spectacle, en particulier comme plus léger, qui est à la fois qui est un faux solo, mais un solo, oui, dans le sens où le public est vraiment directement avec vous. Vous vivez avec lui, quoi.
C'est très fort, Elisabeth. De vous-même, vous assurez la transition. Nous pourrions à présent nous mettre à parler plus précisément de Plus léger que l'air. Mais ce que nous allons faire, c'est un petit instant de pause, une pause musicale. Écoutons un autre extrait de cet album Decarissimo. C'est un beau coffret de 10 CD de Astor Piazzolla. Nous commencions l'émission avec Fuga et Mysterio, le tout début. Ben, terminons avec La muerte d'un angel, je suppose, la mort d'un ange. J'ai pensé que ça pourrait peut-être s'inscrire dans cette histoire de Delita, et puis éventuellement la fin de la pièce. Oh mon Dieu, j'en dis trop. N'en disons pas trop. De Santi aussi. Enfin bref, nous parlons de Plus léger que l'air, une pièce donnée au théâtre de la Croix-Rousse jusqu'au samedi 18 février. C'est-à-dire que, eh bien, Elisabeth Macoco est avec nous maintenant, mais elle sera sur scène ce soir au théâtre, ainsi que demain, vendredi, samedi et même dimanche. Donc les horaires 19h30 en soirée. Dimanche, ce sera
20h.
Alors c'est samedi 19h30, je crois, c'est ça?
20h, samedi 19h30. Et alors mardi prochain, c'est une soirée extraordinaire, puisqu'il y a un bal, il y a un concert. Donc là, c'est 19h. Et le dimanche à 15h30. Donc j'espère qu'on ne va pas perdre tout le monde.
Vous avez tout dit. Et vous allez pouvoir encore en dire davantage sur cette pièce de Federico Ranmer et mise en scène assurée par Jean Lacornerie. D'ailleurs, si j'avais une question à vous poser, mais on le fera tout à l'heure, est-ce que vous avez déjà assuré une mise en scène? Vous avez été, je crois, directrice de théâtre, mais la mise en scène, est-ce que vous avez déjà touché à ça? Continuons avec Astor Piazzolla, puis on se retrouve à la deuxième partie de l'émission, 14h25, c'est très bien sur Radio Canus, et c'est encore mieux. Il y a même les applaudissements. On est presque à Buenos Aires avec Astor Piazzolla. Cet extrait de cet album, je vais le redire pour indiquer surtout la date d'enregistrement, De Carissimo, et cette mort de l'ange a été enregistrée. La date précise, je crois qu'on peut la donner. Zut, je n'arrive pas à retrouver. Ah mince, si, je crois que c'est en 1984, au Teatro Nazionale di Milano. C'est pas possible, j'espère pas qu'il a enregistré vraiment ça à Milan, non. Nous parlons d'une pièce argentine tirée d'un roman. Donc on va pouvoir peut-être justement questionner à notre invitée, Elisabeth Macoco, actrice principale, protagoniste, et puis en fait même plutôt actrice seule sur scène. Nous parlons de la pièce Plus léger que l'air, tirée d'un roman, le roman de Federico Ranmer. Cette pièce est donnée donc jusqu'à la mi-février, samedi 18. Oui, c'est ça, il restera encore 10 jours et le mois de février s'achèvera. Elisabeth, ben pareil, peut-être même question que tout à l'heure. C'est cette pièce, bien, enfin voilà, question très facile. Comment pourriez-vous en parler? Qu'est-ce que, comment y avez-vous été amené? Qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que vous souhaitez en dire? Je vous en prie.
Donc en fait c'est la troisième collaboration que nous avons avec Jean Lacornerie, parce que nous avions déjà travaillé ensemble sur une autre adaptation d'un texte de Balzac, La théorie de la démarche, où il avait réussi à m'affubler d'un faux ventre et de moustache, et ensuite sur une pièce qui s'appelle le rêve du général Moreau, avec le Quatuor de Bussy, où je jouais 14 personnages, et puis... Donc il y a une sorte de fantaisie que possède Jean Lacornerie, à laquelle je suis assez sensible, et nous avons une amitié donc de longue date qui nous donnait envie de retravailler ensemble, et puis Jean m'a parlé de cette adaptation qu'il venait de faire du roman de Jean Maire sur Plus léger clair. Je l'ai lu, je trouvais ça absolument formidable cette histoire, parce qu'elle d'abord c'est un prétexte à jeu absolument incroyable, qui n'est pas un solo au sens classique du terme, puisque cette femme, donc cette vieille femme de 94 ans a enfermé dans sa salle de bain un jeune homme qui en a 14, et elle le séquestre, puisque ce jeune homme a voulu lui dérober ses économies. Donc ça, c'est vraiment une chose qu'elle ne supporte pas. Et elle en profite pour l'enfermer, et elle en profite surtout pour lui parler. Puisque c'est l'histoire quand même d'une femme seule, d'une vieille femme, très très seule, donc une longue vie, très très longue vie de solitude, et qui a besoin, à un moment donné, de raconter une histoire un peu rêvée ou imaginée ou réelle peut-être, puisqu'elle est quasiment orpheline, d'une mère qui a été idéalisée et qui a vécu une histoire mélodramatique avec un aviateur et qui veut voler. Alors, c'est une chose complètement ahurissante, voilà, dont le rêve de cette femme est de piloter un aéroplane. Et c'est déjà pas courant, surtout à Buenos Aires en 1916. Donc ce qui me touchait beaucoup aussi dans ce texte, outre la langue elle-même de Jean Maire, qui est une langue formidable, qui est très imagée, qui est très drôle, c'est un texte qui est très fracturé, qui passe d'un sujet à l'autre.
Que vous avez lu l'adaptation d'abord ou le roman lui-même?
J'ai d'abord lu l'adaptation et ensuite j'ai lu le roman. Voilà. Et c'est vraiment, bon, c'est écrit très directement, dans un style très adressé. Donc ça me parlait beaucoup, c'est le cas de le dire. Et puis cette histoire, c'est pas une plainte. C'est-à-dire, c'est jamais quelqu'un qui se plaint. C'est quelqu'un qui est très très dynamique, qui est très drôle. Hein, c'est férocement drôle à la manière argentine. Et il se trouve que j'ai déjà fréquenté un peu la littérature argentine avec copine. Alfredo Arias, et j'en avais gardé un souvenir avec Laurent Fréchuret, j'en ai gardé un souvenir formidable. C'est vraiment c'est atroce, atrocement drôle, quoi. C'est furieusement méchant et réaliste, et c'est une manière de prendre la réalité comme ça à bras le corps, sans plainte, jamais, c'est-à-dire de toujours considérer les choses avec envie, avec vie, quoi. Il y a de la vie tout le temps, même dans le désespoir le plus profond, on garde un humour et une distance qui est très élégante, et donc j'étais ravi de retrouver cet univers, et puis particulièrement sur cette thématique de cette vie qui se rêve, en fait. Voilà, cette vie qui ne s'est pas vécue, une vie quotidienne, en fait, de cette femme, et qui a été transcendée par le rêve, l'histoire de cette mère, dont on ne sait même pas d'ailleurs si elle a existé, et qui, elle, a eu un rêve. Et qui a eu le courage. Et ce qu'elle dit dans le texte, et c'est très beau, elle dit « il faut beaucoup de courage pour avoir un rêve ». Et je crois que c'est en partie vrai. Elle dit « moi, je me suis contenté de vivre, ou de survivre plutôt, mais il faut du courage et de la résolution pour avoir un rêve, et évidemment encore plus pour le pousser à bout ». Donc c'est vraiment cette chose-là qui m'a, comme je vous ai dit, les retrouvailles avec Jean, avec l'Argentine, avec ce type de texte, cette manière, un peu ce désespoir élégant, enfin ce désespoir qui est drôle, qui est très lucide sur les autres, sur soi-même, voilà, et qu'on partage avec le public, et avec quand même ce jeune homme qui est enfermé dans la salle de bain, Santi, qui a 14 ans, et donc on sent l'histoire petit à petit, puisqu'en fait Faïla, donc le personnage principal, traduit
pour le public ce qui se passe avec lui et s'adresse d'ailleurs au public comme s'il était senti. C'est-à-dire le public est tout à la fois, quoi. Il est celui qui écoute, il est celui qui joue avec moi. Et donc ça, c'est formidable dans un... C'est ça qui est formidable quand on est seul sur scène, c'est-à-dire que le public est votre partenaire, vous êtes vraiment avec lui, et c'est vrai que bon, j'ai eu la chance de faire plusieurs solos dans ma vie, et j'ai toujours, c'est dangereux en même temps, parce qu'il y a une espèce de fil de danger extrême, où vous êtes quand même seul, donc, et puis en même temps, cette manière d'avoir avec vous l'assemblée, de pouvoir dire des horreurs, de pouvoir dire des tas de méchanceté et de pouvoir en même temps livrer des choses très intimes et les partager avec le public.
Vous arrivez à créer un lien permanent avec le public ou parfois des fois c'est compliqué, enfin, le public n'est pas réactif et...
Le public est très différent chaque soir. Il est, chaque soir est vraiment... c'est un lieu commun de dire ça, mais en particulier quand on est seul, on réinvente la relation tous les soirs. Et c'est ça qui est formidable aussi, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le quatrième mur, n'existe pas, c'est-à-dire vous voyez le public vraiment, et il est comme dans une relation interpersonnelle, c'est-à-dire, vous allez être, il est plus ou moins réceptif, il est plus ou moins là, il est, du moins dans l'idée que vous vous en faites aussi. Parce que vous imaginez aussi des choses d'après ses réactions. Il est plus ou moins attentif, plus ou moins fatigué, plus ou moins jeune, vieux, féminin, masculin. C'est très divers, c'est très varié. Et c'est ce qui magnifie, je dirais, la force du théâtre. C'est-à-dire d'avoir à chaque fois quelque chose à recommencer de nouveau. Chaque représentation est nouvelle, est unique. Alors elle dure, ça qui est merveilleux, c'est-à-dire elle dure le temps qu'elle dure. Là, c'est très peu, une heure quinze, 1h10. Mais elle pourrait durer plus longtemps, ce serait pareil. Et puis voilà, il s'est passé un moment, et ce moment, il est à la fois très court et il est à la fois immense. Et ça, c'est vraiment la beauté du théâtre. Hein. Parce qu'une seconde, des fois, vous ne savez pas, ça arrive, vous ne savez pas ce que vous allez dire. Vous n'avez plus. Et là, c'est une espèce de gouffre. C'est mystique. Ouais. C'est-à-dire, vous avez l'impression que vous allez mourir. Et puis, à un moment donné, il y a un éclat de rire partagé. Il y a une connivence qui se fait. Il y a un sourire. Et là, c'est une joie très forte.
Mais vous le voyez si bien que ça, le public? Parce que c'est une question que je me pose assez souvent. Il me semble que les projecteurs font que c'est un peu peut-être compliqué quand on est sur scène de voir le public. Mais d'après ce que vous me dites, il me semble qu'on en perçoit quand même beaucoup plus que ce que je pensais.
On en perçoit pas mal. Puis vous êtes obligé, c'est-à-dire c'est pas une fausse adresse. En même temps, c'est pas une adresse agressive. C'est vraiment prendre en compte le public tel qu'il est, là où il est, ce jour précis. Et c'est pour ça que je parlais de votre t-shirt tout à l'heure. C'est-à-dire effectivement, il y a une scène à un moment donné où le public est vraiment pris à partie. On est dans la réalité du moment, en même temps dans la fiction et en même temps dans la réalité de ce moment-là. Et ça, c'est la véritable adresse au public. C'est-à-dire, c'est cet instant présent avec ce public-là. Et c'est pas une fausse adresse où on ne verrait pas, on aurait le troisième mur, le quatrième mur, la ligne bleue des Vosges ou des Alpes, vous voyez, puis on ferait semblant de s'adresser à... Non, il y a dans ce type de spectacle, en particulier dans Flux Léger, il y a une vraie prise en compte. C'est lui qui est là, à ce moment précis, et habillé de cette manière-là, et qui réagit de cette manière-là. Excusez-moi, je reviens beaucoup à l'habillement, je ne sais pas pourquoi je fais de plus.
Mais alors, ça pour le coup, c'est très intéressant, parce que ce n'est pas le propos, enfin, le propos... Quand Federico Jeanmaire écrit ce roman, il n'y a pas cette dimension. Enfin, je suppose quoi que si, c'est peut-être...
Si, le lecteur. Lecteur.
Oui, mais...
C'est ça qui vous touche dans le roman, c'est le fait que on s'adresse à vous. Personnellement, vous êtes complètement accaparé par cette histoire parce qu'elle vous parle. Cette faille-là vous parle de la même façon. Et c'est vrai que cette transposition au théâtre, elle est très juste à cause aussi du rapport que crée l'auteur dans le rapport au lecteur. C'est pas toujours le cas. Hein. Des fois, on est mis à distance par un style romanesque ou etc. Là, non. On est happé par quelqu'un qui vous parle et qu'on a l'impression de comprendre intimement. Et donc, c'est cette chose-là qu'il faut retrouver, c'est-à-dire cette... en même temps cette préparation, et en même temps, au bout de la préparation, il faut l'innocence, il faut la liberté, il faut se dire on y va, allons. Voilà, je suis là avec ces gens-là et je dois être dans la sincérité du moment. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne ment pas. Bien sûr que si. Mais c'est un mensonge sincère.
Est-ce que le public parfois vous souffre de blancs monumentaux parfois ? Ou parfois vous dites, ouais, il y a un sourire qui va me sauver, qui va me permettre de pouvoir jouer avec le public et qui va me permettre de.
Écoutez, il y a des choses des fois merveilleuses. Par exemple, il y a une question, elle pose une question à un moment donné dans le spectacle à l'autre protagoniste, évidemment. Elle lui demande s'il l'aime. Et l'autre jour, il y a une dame qui a répondu oui. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire. Et je me souviens j'ai fait il y a quelques années un spectacle qui s'appelait Callas, sur Maria Callas. Et il y avait comme ça des moments de partage tellement forts avec le public que le public me répondait. Alors, je me souviens en particulier, il y avait un moment où elle parlait d'une interprétation de la Traviata. J'expliquais donc qu'il y avait certains rôles où on ne pouvait pas avoir une voix très claire, mais au contraire, qu'il fallait travailler sa voix pour que la voix soit en adéquation dramatique avec ce que vivait le personnage. Et je me souviens, un soir, il y a un homme qui s'est quasiment levé de son siège et qui a dit « Oh oui
!» pour approuver ce que vous disiez.
Qui était pris et qui approuvait effectivement cette chose qui était un peu, à l'époque, polémique dans le... Et là l'autre soir, c'était vraiment un très beau moment, parce que ce personnage qui disait « Mais est-ce que vous m'aimez ?» Finalement, on ne se connaît pas depuis très peu de temps. Et il y a une dame qui a dit « Oui !»
Oui, ça c'est très bien, hein, parce que Elisabeth, vous n'êtes pas allée au bout tout à l'heure, mais nous étions donc dit hors antenne en début d'émission que moi, samedi soir, je me suis fait traiter de cancre, hein, parce que vous vous demandiez « Mais où vit le gaucho ?» Où vit le gaucho ? Il vit dans là, je crois que même vous peut-être en rajoutiez-vous par rapport au texte, parce qu'il ne me semble pas qu'il y a à ce point cet effet d'attente. Si, c'est le Santiago est censé répondre. Oui. Dans là, moi j'avais lu le texte, hein, j'aurais pu répondre la pampa, je ne l'ai pas fait. Et vous avez écrit donc en bonne institutrice que Faïla vous avez été.
Oui.
Et bien vous écrivez donc la pampa à la craie.
Oui.
Et puis vous avez rajouté, moi j'ai très bien entendu, et la technicienne lumière son, je crois également, qui était à côté de moi, en a pouffé. Ah, mais de toute façon, il n'y a que des cancres le samedi soir. Ah, mais c'était. J'ai pris ça pour moi, très
oui,
bien.
Oui, il y a des libères, effectivement. Non, mais... Voilà, ce rapport-là permet effectivement quelques petites apartés, quelques petites improvisations. Et ça, c'est formidable aussi, avec ce type de texte. Hein. C'est-à-dire, il y a des textes qui, même quand vous êtes en solo, ne le permettent pas. Mais ce type-là de texte, vraiment, enfin, c'est lié à la faconde argentine. C'est-à-dire, on pose une question, alors le public répond, bah oui, samedi soir, il y avait des camps. Personne n'a trouvé la pampa.
Le gaucho. Ce texte, donc, je pense qu'on le comprend un peu, ou même peut-être ce personnage de Raffaella, enfin disons, le prénom n'est pas évoqué, je crois,
non,
dans la pièce.
Il faut non, vraiment c'est le, être, c'est le surnom, Faïla.
Voilà, il faut avoir été lecteur du roman pour le savoir. Donc oui. Faïla, qui même est appelée Lita par le jeune Santiago, enfin Santi, vous l'appréciez, cette femme, vous auriez un regard sur elle, bien entendu, on parle d'un personnage de papier, quoique pour vous c'est un rôle que vous incarnez, il y a peut-être plus au-delà du texte que je crois savoir qu'il vous plaît, le personnage, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous auriez des réserves, des reproches à lui adresser ou... Ça peut sembler une question un peu bateau, hein. Qu'en pensez-vous du personnage que vous jouez ?
C'est une question intéressante parce que j'ai pas de jugement. Je porte pas de jugement sur Faïla. Je suis, j'essaie de comprendre, d'entendre à la fois cette solitude extrême, cette vie, ce destin, ce destin de femme parmi d'autres, qui fait que à un moment donné, ça conduit à des extrêmes, c'est-à-dire à une conduite insensée.
À
des choses totalement insensées, puis même des fois d'une méchanceté, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui est atrocement drôle parce que c'est fait avec tellement de naïveté.
Je me suis dit, bon, mais enfin, vous avez encore faim, vous avez mangé deux crackers, mais c'est énorme, vous devez avoir le verre solitaire, c'est pas possible. Mais
alors, ou alors, il y a aussi, elle lui suggère de manger des papiers des serviettes hygiéniques.
Puis alors, de boire l'eau du robinet, il n'y a pas de raison que. Voilà, il est très bien finalement. Bon, ben, puis il dort par terre, il n'a qu'à dormir sur les serviettes. Tout ça est d'une évidence, d'une innocence dans l'atrocité, mais bon, évidemment, avec la distance avec l'humour. Voilà, mais en même temps, oui, ça parle de ça, cette espèce de solitude qui rend vraiment, qui rend fou, c'est-à-dire le manque de relation avec les autres, le manque d'amour, parce qu'il y a des choses dans le roman qui ne sont pas évidemment dans l'adaptation. Donc moi je sais qu'ils nourrissent le rôle, notamment dans le rapport, dans les rapports amoureux, qu'elle cite beaucoup, l'amour étant représenté, étant idéalisé pour elle avec l'histoire de sa mère, mais surtout par-dessus tout, je dirais le fait que sa mère ait eu un rêve et qu'elle ait voulu devenir aviateur, c'est-à-dire faire une chose transgressive, c'est-à-dire sortir de son destin, le destin écrit d'une femme qui doit avoir de la bonne bourgeoisie, qui doit avoir des enfants, qui doit séduire les amis de son mari pour que son mari ait de l'avancement, et qui veut sortir de ce destin. Et ça, c'est une chose qui est très forte, et je crois qu'on sent bien dans le spectacle, et qui finalement fait un petit peu fait comprendre les outrances auxquelles arrive Faïla, parce que la vie a fait qu'elle n'a pas eu de rêve à réaliser et que rien ne s'est réalisé.
Lorsque le troisième jour commence, elle déclare, disons, vous dites sur scène, vous savez, Santi, ce matin, j'ai eu une sensation très agréable, unique. Pour la première fois en 93 ans, je suis allé me coucher avec la certitude qu'un homme m'attendrait à mon réveil. Un homme, vous, senti, m'attendrait, impatient que je continue de lui raconter ce qui est arrivé à ma mère ce terrible matin. Voici maintenant près d'un siècle, et puis ça continue. C'était une sensation exceptionnelle, mon garçon. Peut-être, alors, moi, je relance cette question une ultime fois, sans forcément la juger. Que lui diriez-vous, voire que lui demanderiez-vous, peut-être Faïla, est-ce que vous avez le sentiment d'être passé à côté de votre vie ou allez, tenez, on va faire une promenade maintenant, vous m'avez l'air d'être encore un peu gaillarde, un peu vaillante, enfin, je sais pas, moi, qu'est-ce que... Je vais vous parler, parce que je crois que dans le roman, elle ne parle qu'un peu au concierge, au portier, qui d'ailleurs est soupçonneux de toutes les escalopes qu'elle va acheter pour les faire cuire à son petit Santi. Sinon, si, elle parle également des commerçants, je crois, parfois elle discute avec certains commerçants.
Oui, puis elle curé.
Certes, effectivement, voilà, le curé.
Elle a parlé au curé, mais...
D'ailleurs, elle dit à un moment aussi qu'elle est fatiguée parce qu'elle n'a jamais autant parlé.
Oui, absolument.
Toute une journée.
C'est un observateur.
Je voulais dire, cette pièce, la lecture du texte m'a vraiment beaucoup plu. Et vous voir sur scène, ça m'a également... Il y a un truc qui se passe, quoi. Ça fonctionne. Donc bref, si cette faille-là, on pouvait la voir, là, si on l'avait ici, qu'est-ce que... Ou alors on passe à autre chose.
Non, on l'écouterait. Je crois qu'il faudrait l'écouter, il faudrait parler. On rencontre des gens, des fois, comme ça. On fait ce qu'on peut, avec ses voisins ou les gens qu'on peut croiser et qui sont effectivement dans une extrême solitude. Alors, soit qui arrivent à bâtir des choses autour, parce qu'il y a quand même des liens familiaux, etc. Après, ben, on sent que, par exemple, Faïla, ce serait un personnage qui serait une femme qui aimerait bien, qui doit aimer lire. Voilà, qui doit aimer raconter des histoires. Donc peut-être on lui conseillerait de raconter des histoires ou de fréquenter des jeunes gens ou des enfants. Voilà, on peut imaginer des choses autour de ça. Je crois que autour du fait du rêve, autour de la fiction, autour de la lecture, autour de... Voilà, on pourrait sans doute trouver quelque chose... Je suis sûre que Faïla adorerait aller au cinéma. Voilà, elle serait une fanatique de cinéma, de lecture, de... Voilà, une autre manière comme ça de vivre, qui permettrait à son imagination aussi débordante de s'exercer. D'ailleurs, on le voit bien quand même, elle invente des choses incroyables.
Elle en invente, elle en raconte, mais elle en invente parce que, bon, quand même, toute cette histoire, tous ces détails de ce qui se passe, le dernier dialogue, la veille, le terrible matin, elle devrait écrire. Elle aurait beaucoup de succès. Voilà ce que on pourrait conseiller à Faïla.
Auditeur, est-il temps, ou même plutôt invité, je dirais, est-il temps de faire encore une courte pause sur toujours de la musique argentine, parce que vous parlez, et en fait, même vous êtes Faïla, enfin disons, vous parlez d'elle, mais vous l'incarnez. L'aurez-vous bien compris? Donc, auditeur, je redis les choses, j'étais en train de chercher également les précisions. Vous êtes Elisabeth Macoco, l'actrice seule sur scène. Le rôle de Santi est quand même très
merveilleux.
Il est très léger.
Merveilleux.
Vous êtes seule sur scène actuellement au Théâtre de la Croix-Rousse pour la pièce Plus léger que l'air, une pièce tirée d'un roman. Donc, c'est un peu particulier, mais cela fonctionne bien. C'est jusqu'au samedi 18 février. Partons sur une musique peut-être un peu plus moderne. Gotan Project, c'est l'ouverture de leur album La Revancha del Tango. Queremos Paz. Nous voulons la paix. Est-ce que cela peut fonctionner pour cette pièce? Je ne sais pas. Question comme ça que je vous lance. Encore 10 minutes pour parler de cette pièce et puis peut-être pour faire quelques annonces. Je crois que vous accepterez totalement que l'on parle du TNP.
Avec joie.
Puisque vous étiez cette saison
dernière,
vous y étiez même cette saison actuelle,
oui,
là, puisque Electre était au mois de septembre dernier. Écoutons la Revancha del Tango, donc un peu de Cotton Project et puis nous terminerons. Je vois Pascal qui arrive, donc le blues des Cagnots aura bien lieu aujourd'hui, auditeur. ça, c'est une très bonne chose. C'est une découverte que nous avons permis à notre invité, permis, je crois, à notre invité de faire. Elisabeth Makoko, nous lui avons permis de découvrir dans Gotham Project. Ça, c'est l'ouverture de l'album. Queremos Paz, nous voulons la paix. Est-ce ce que désire Faila dans cette pièce plus géculaire? Est-ce ce que désire Santiago? Lui, Santi, souhaiterait certainement être libéré. Vous, en revanche, auditeur, ce que vous allez souhaiter, c'est être présent. Le mardi 14 février, Saint-Valentin, certes, mais surtout un moment, grand moment au Théâtre de la Croix-Rousse, un moment autour de cette pièce plus géculaire, avec différentes choses. Je vais tenter de lire un peu le programme. Ce que je peux également faire, c'est vous inciter à aller voir le site internet ou alors à appeler, pourquoi pas, le Théâtre de la Croix-Rousse. Il est indiqué sur ce que j'ai sous les yeux. Le 14 février, vivez à l'heure de Buenos Aires. En écho à la thématique argentine des spectacles présentés le même soir, eh bien, une milonga est organisée avec l'association Tango de Soie. Et donc au programme, tout d'abord, démonstration de couple de professeurs de tango de 18h30 à 19h, puis initiation et démonstration d'un couple de danseurs au début du bal qui aura lieu à 22h, parce que, entre-temps, à 19h30 aura eu lieu la pièce. La pièce aura été donnée, donc Elisabeth Makoko seule sur scène avec Quentin caché derrière une porte. Et puis donc à 22h, c'est un bal qui a lieu, et bal avec DJ de 22h à minuit. C'est en compagnie du groupe, de trois musiciens de tango, et c'est le groupe, je crois, Valentino Suite. Non, c'est pas le groupe Valentino Suite. Ah, Héloïse, il faut intervenir, il faut nous donner des précisions.
Valentino Suite, c'est le quatuor de Bussy qui donne un concert inédit autour de la musique argentine, dont des morceaux d'Astor Piazzolla, qui est donc un concert qui est vraiment dédié et qui est avec le quatuor de Bussy et un accordéoniste, Pascal Conté, à 21h. Donc on a spectacle à 19h30 avec Elisabeth Makoko, plus léger que l'air. Tango, petite interlude tango dans le hall, et ensuite concert à 21h avec le quatuor de Bussy et Pascal Conté, pour finir avec un bal tango, toujours coordonné par l'association Tango de Soie.
Bon, là je crois qu'on sait tout. Il nous reste encore quelques minutes, puisque Elisabeth est avec nous. Est-ce que, oui, vous l'avez dit tout à l'heure, vous nous permettez tout à fait de faire une légère annonce sur ce théâtre national populaire, le TNP, qui est à Villeurbanne. Vous nous permettez d'annoncer qu'il y a la fin.
Voilà, c'est la fin.
Merci. C'est la fin de la pièce La Tragédie du roi Christophe qui a commencé en janvier dernier. Ce sont donc les dernières dates, c'est donné jusqu'au 12 février, c'est-à-dire vendredi c'est le 10, samedi 11, dimanche 12 février. Donc dernière date pour cette Tragédie du roi Christophe, une pièce d'Aimé Césaire. Là, c'est bien une pièce Christian Schiaretti à la mise en scène. Vous le connaissez?
Oui, bien, on a fait trois spectacles ensemble, et il a accueilli la compagnie à juste titre, qui est la mienne, en compagnonnage la saison dernière, et nous avons eu le plaisir de travailler à trois reprises ensemble pour Electre, notamment une création de Jean-Pierre Simon que nous avons repris en début de saison, qui était vraiment un très beau moment pour moi, très fort, et puis sur une création très importante qui était l'affaire Bettencourt, le dernier texte de Michel Vinavert,
Bettencourt Boulevard,
Huberoy.
Ah oui, Huberoy.
Bettencourt Boulevard.
Et j'oubliais effectivement Huberoy, qui était, c'est pas très très vieux, c'était en juin dernier.
En juin dernier.
Nous avions reçu Stéphane Bernard à l'époque à l'occasion de la 100e émission, aujourd'hui 122e, je ne sais pas si je l'avais dit. Donc bref, Isa, nous on va essayer d'y aller vendredi, on va essayer d'aller voir cette pièce de cette Tragédie du roi Christophe. C'était dans le cadre, ça a commencé au mois de décembre, dans le cadre d'un ensemble de manifestations autour d'Aimé Césaire. Il y a eu une saison au Congo qui avait déjà été donnée il y a quelques années. Il y a eu aussi la reprise du spectacle Cahier d'un retour au pays natal avec Olivier Borle, que nous avons reçu dans l'émission. Voyez, Elisabeth, on ne reçoit, vous compris, que des pointures lyonnaises. C'est pour ça qu'en début d'émission, nous tenions à faire un peu un portrait de l'invité. Et puis, là, pour la Tragédie du roi Christophe, on pourra faire un compte-rendu éventuellement, mais recevoir Marc Singa, moi, je l'aurais souhaité, mais bon, ça n'a pas pu être possible. Je crois que nous arrivons à la fin. Peut-être que ce qu'on pourrait faire, c'est écouter un petit peu, je vous l'avais dit tout à l'heure, Anna Karina qui chante Je n'ai jamais dit que je t'aimerais toujours. Isa, as-tu une annonce à faire, toi? Est-ce que...
Barthes, un animateur lyonnais dont j'aurai la réponse cette semaine, je pense qu'il viendra d'ici mi-mars à peu près, on l'aura.
on fait comme ça un panorama à la fois théâtre, certes, grâce à Gérald, un peu art plastique, et puis là, donc on pourra faire d'autres médias. C'est très bien. Je pense comme ça, je suis en train de meubler un peu. Vous êtes sur scène ce soir à 20h. Je n'arrête pas de me tromper pour les horaires.
Oui, ce soir à 20h, oui.
C'est à 20h, demain 20h également, vendredi 20h.
Et mais samedi 19h30.
Voilà, c'est un poil plus tôt. Et puis dimanche, ah, on a trouvé l'horaire de dimanche.
15h.
C'est à 15h dimanche.
30. Bon. 15h. Bah, je commencerai à 15h.
Bon alors. Ouais.
Merci.
Et écoutons un petit peu. Ah, ben, c'est à vérifier donc.
Allez, non, auditeur. Mais c'est sur le site interne.
Voilà,
c'est 15h30, d'accord.
Allez vérifier sur le site. Écoutons quelques notes et puis je crois qu'on va arriver.
Jamais je ne te dis que je t'aimerai toujours. Oh mon amour. Jamais tu ne m'as promis de m'adorer toute la vie. Jamais nous n'avons échangé de tels serments, mais connaissant, te connaissant. Jamais nous n'aurions cru être jamais pris par l'amour, nous qui étions si inconstants. Pourtant, tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit, des sentiments se sont glissés entre nos corps, qui se plaisait à se mêler. Et puis des mots d'amour sont venus sur nos lèvres nues, petit à petit. Des tas de mots d'amour se sont mêlés tout doucement à nos baisers. Combien de mots d'amour? Jamais je n'aurais cru que tu me plairais toujours, oh mon amour. Jamais nous n'aurions pensé pouvoir vivre ensemble.
Auditeur, vous l'aurez reconnu, générique de fin d'émission. Nous arrivons au terme de Spectaculaire aujourd'hui, ce mercredi 8 février. Je peine avec les dates aujourd'hui, je peine avec plein de choses. Il y a également des pièces qui sont programmées au Théâtre des Célestins, mais je vous invite plutôt à aller consulter le site parce que là, enfin, voilà, c'est la fin. Nous disons absolument n'importe quoi. Quoique si, Elisabeth, vous avez l'horaire de dimanche, vous savez
oui,
à quelle heure vous jouez dimanche?
15h30.
Dimanche, c'est à 15h.
Non, c'est 15h. Bon. Jusqu'au bout.
Est-ce qu'on va réussir? Qu'est-ce que... Nous nous en mêlons les mains dans les pinceaux, dans tout un tas de choses. Est-ce que je vais réussir à remettre le bon générique? Gérald, si tu écoutes, c'est sûrement dû à toi si rien ne marche aujourd'hui. Ah voilà, là, le générique, c'est le bon. Actualité à venir pour vous, Elisabeth Macoco, ce sera...
La reprise de Plus léger clair au Festival d'Avignon.
Pour combien de dates?
Oh, pour une vingtaine de dates.
Ah d'accord, en voilà. Mince, c'est peut-être mieux qu'au Théâtre de la Croix-Rousse. Auditeur, de toute façon, ne comparons pas. Faites donc aller faire partie du public pour avoir une interaction avec Faïla qui est sur scène. Vous avez donc jusqu'au samedi 18 février pour vous y rendre. Peut-être qu'il pourrait être bon de réserver parce que la jauge étant un peu limitée, il pourrait être très avisé de votre part si vous souhaitez monter la Croix-Rousse de passer un coup de téléphone ou d'aller voir sur internet pour réserver des places. Ça vaut le coup, je l'ai vu et j'ai trouvé ça très bien. Blues des Canuts qui commence avec un peu de retard, mince. Pascal, il va nous pardonner, on retarde un peu les choses. On se retrouve mercredi prochain comme d'habitude avec, on ne sait pas, un invité qui sera auditeur. Restez à l'écoute des programmes de Radio Canuts et de Spectaculaire pour savoir qui viendra la semaine prochaine. Merci beaucoup Elisabeth.
Merci à vous.
Merci Louise, ciao Isa, salut, bye.